Eh bien, je commence par remercier les organisateurs de cette journée pour leur invitation. Et dans la présentation qui vient d'être faite, vous avez entendu que j'étais historienne et médiéviste. Donc je ne suis pas philosophe, je ne suis pas orientaliste et je ne suis pas du tout spécialiste de l'œuvre d'Henri Corbin. Donc le thème que je propose, mariage mystique et mystique nuptial, sur la période et l'espace du Moyen-Âge occidental, pose évidemment la question d'une définition de la mystique, une définition toujours redoutable. Si on prend les éléments les plus basiques qu'on peut trouver dans un Larousse, par exemple, ensemble de pratiques, de connaissances, d'œuvres relevant du mysticisme. Voilà, comment botter en touche sur une autre définition. Et en allant voir un mysticisme, on se rapproche un peu plus de l'objet peut-être. Je cite « attitude religieuse ou philosophique qui affirme la possibilité d'une union parfaite avec Dieu ou l'absolu dans la contemplation ou l'extase ». Donc ce qui est visé par la démarche ou l'expérience mystique, c'est l'union avec le divin. Une union qui est à la fois expérience et connaissance. Alors l'expérience est supposée être rare, voire exceptionnelle, et pourrait être préparée par certaines pratiques visant à favoriser un détachement par rapport au corps, au monde sensible de l'expérience ordinaire, ou même aux images et concepts de l'esprit. L'expérience mystique, fréquemment aussi, selon la tradition, peut s'accompagner de phénomènes extraordinaires, hein, tels que les visions ou extases. Dans le christianisme occidental, la veine mystique remonte à Augustin. Voilà, on connaît souvent ce qui est devenu comme une maxime. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Donc, il y aurait au cœur de l'homme un désir de Dieu, qui est aussi, chez Augustin, un désir de voir Dieu. On a ensuite d'autres jalons chez Grégoire le Grand, puis c'est surtout au XIIe siècle que s'épanouit une mystique chrétienne, avec, là encore, des problèmes de définition, jusqu'à refuser pour certains de mes collègues aujourd'hui de parler de mystique pour la période médiévale. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on trouve l'adjectif mystique, mysticus, mais il n'y a pas un substantif pour désigner ce qui serait la mystique, tel que ça a pu être formulé à l'époque moderne. Alors, sans aller jusqu'à récuser le terme, on peut relever que d'un côté, il y a des visionnaires, et en particulier des femmes, qui sont fréquemment qualifiées aujourd'hui de mystiques, comme Élisabeth de Schönau ou celle dont on parle plus aujourd'hui, Hildegarde de Bingen. De l'autre côté, il y a des moines et des religieux qui élaborent une théologie spirituelle, faisant une large place à l'union à Dieu, que celle-ci soit désignée par ses contemporains comme contemplatio, la contemplation, ou par nous aujourd'hui comme expérience mystique. Les auteurs de ces écrits du XIIe siècle appartiennent à trois ordres religieux en particulier, celui des chartreux, celui des victorins et celui des cisterciens. Parmi les questions majeures auxquelles ils se sont affrontés, il y a celle de la possibilité de voir Dieu. Même si la vision dont il est question, c'est une vision spirituelle, une vision intérieure. Voir Dieu, ça anticiperait la vision béatifique, donc dans quelle mesure ce serait possible ici-bas. Un autre problème également très complexe, c'est celui du rapport entre l'union des trois personnes de la divinité entre elles et l'union de la créature humaine à Dieu. Alors, ces deux problèmes sont si compliqués que je n'ai pas eu l'ambition de vous les présenter aujourd'hui. Je vais aborder les choses un petit peu différemment puisque j'ai choisi de mettre l'accent donc sur le thème de mariage mystique et mystique nuptial. Voilà, donc en me focalisant immédiatement sur la dimension amoureuse de la relation à Dieu qui sera le fil conducteur de cet exposé. Je vous propose un parcours à travers les siècles jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Mais le thème de la journée d'aujourd'hui, amour humain et amour divin, m'a semblé appeler un certain nombre de remarques préalables quant aux spécificités de la tradition chrétienne. En effet, dans cette tradition, amour humain et amour divin peuvent entrer en tension, voire en opposition. Je vais donc organiser mon parcours en trois étapes. Voilà, je relèverai d'abord certaines données de l'Écriture et les lignes directrices de leur interprétation jusqu'au XIe siècle. Dans un deuxième temps, je m'arrêterai sur les changements ou déplacements significatifs qu'on peut observer au XIIe siècle. Et enfin, mais ce sera vraiment un aperçu très rapide, je verrai certaines modulations de la mystique nuptiale ou du mariage mystique au dernier siècle du Moyen-Âge. Voilà, j'ai retenu pour étayer ce parcours une quinzaine de textes significatifs et quelques images. Donc, dans un premier temps, les données de l'Écriture et les lignes directrices de leur interprétation jusqu'au XIe siècle. J'ai parlé d'une tension entre amour divin et amour humain dans le christianisme, mais en réalité, ça dépend de l'amour humain dont il est question. Les deux grands commandements mis sur le même plan par le Christ sont l'amour de Dieu et l'amour du prochain. En ce sens, amour divin et amour humain, évidemment, ne s'opposent pas. En revanche, les choses ne sont pas aussi simples entre amour divin et mariage. Alors, on doit d'abord regarder les enseignements du Christ lui-même, notamment d'après l'évangile de Matthieu. Jésus ne remet pas du tout en question le mariage, au contraire, pourrait-on dire. Interrogé par des pharisiens, c'est-à-dire des juifs observants, sur la possibilité de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif, Jésus commence par rappeler ce qui est écrit dans le livre de la Genèse. Et de façon assez intéressante, en citant deux versets qui sont pris dans les deux récits successifs de la création. Donc le premier, c'est « Homme et femme, il les fit », donc en référence au premier chapitre de la Genèse. Et puis « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un », dans le second chapitre. À ces deux versets de la Genèse, Jésus ajoute « Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui demandent alors pourquoi Moïse a ordonné la remise d'un acte de répudiation pour quitter sa femme. Jésus leur répond que c'est à cause de l'endurcissement des cœurs, mais qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Et il déclare que « Quiconque renvoie sa femme pour en épouser une autre est adultère. » À ces mots, ce sont ses propres disciples, et même pas les pharisiens, qui regimbent. Ils disent que dans ces conditions, autant ne pas se marier. Et c'est à ce moment-là que Jésus parle d'une façon un peu mystérieuse des eunuques pour le royaume. Donc c'est le passage que je vous ai indiqué, le verset. « En effet, il y a des eunuques qui sont nés ainsi du sein maternel, il y a des eunuques qui ont été rendus tels par les hommes, et il y en a qui se sont eux-mêmes rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Comprenne qui peut comprendre. » Alors, la première catégorie d'eunuques, évidemment, sont des hommes affectés d'une infirmité dès la naissance. Les autres sont ceux qui ont été castrés, en particulier des esclaves. Et puis, donc, dernière catégorie, ceux qui se rendent eunuques pour le royaume des cieux. Alors, ça a parfois été pris au pied de la lettre par des convertis trop zélés, mais il s'agit de ce que la tradition chrétienne a appelé le célibat pour le royaume. Une autre controverse, cette fois avec des sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection, se déroule un peu plus tard. Ils racontent à Jésus une histoire un petit peu tirée par les cheveux autour de ce qu'on appelle la loi du Lévirat. Donc les sadducéens, c'était le groupe qui était attaché au temple, un groupe de notables, mais qui ne croyait pas en la résurrection. « Maître, Moïse a dit, Si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve pour donner une descendance à son frère. Donc c'est ça la loi du Lévirat. Or, il y avait chez nous 7 frères. Le premier qui était marié mourut, et comme il n'avait pas de descendance, il laissa sa femme à son frère. De même, le deuxième, le troisième, et ainsi jusqu'au 7e. Finalement, après eux tous, la femme mourut. Eh bien, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle la femme, puisque tous l'ont eue pour femme ? Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Voilà, donc ça ouvre le motif d'une vie angélique, hein, telle que menée après cette vie terrestre et qui met un terme au lien conjugal et exclut la sexualité. À côté de ces paroles de Jésus, finalement assez rares et brèves, on trouve des enseignements beaucoup plus développés chez saint Paul. Dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, parlant du mariage, il compare l'amour du Christ pour l'Église à l'amour d'un mari pour sa femme, et réciproquement. L'homme doit donc aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il doit l'aimer comme son propre corps, il doit l'aimer comme lui-même. Du côté de la femme, elle doit être soumise et respecter son mari. Mais dans la lettre aux Corinthiens, le chapitre 7 commence ainsi « Il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme ». Paul nuance aussitôt ce propos puisqu'il dit « Compte tenu de la faiblesse humaine, mieux vaut se marier que de risquer de tomber dans la débauche. » Donc que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari. Mais quelques lignes plus bas, il indique que c'est une concession, pas un ordre. Au contraire. Voilà. D'où ce texte, la suite de son texte. Je dis donc aux célibataires et aux veuves qu'il est bon de rester ainsi comme moi. Mais s'ils ne peuvent vivre dans la continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que brûler. Au sujet des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur. C'est un avis que je donne, celui d'un homme qui, par la miséricorde du Seigneur, est digne de confiance. Je pense que c'est un avantage à cause des angoisses présentes. Oui, on a avantage à rester ainsi. Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre. N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas de femme. Si cependant tu te maries, tu ne pèches pas. Et si une vierge se marie, elle ne pèche pas. Mais les gens mariés auront de lourdes épreuves à supporter, et moi je voudrais vous les épargner. Celui qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié a souci des affaires du monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il est partagé. De même, la femme sans mari et la jeune fille ont souci des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Mais la femme mariée a souci des affaires du monde. Elle cherche comment plaire à son mari. Je vous dis cela dans votre propre intérêt, non pour vous tendre un piège, mais pour que vous fassiez ce qui convient le mieux et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Ainsi, celui qui épouse sa fiancée fait bien, et celui qui ne l'épouse pas fera encore mieux. Donc, dans ce texte, on voit bien poindre des idées, des principes qui vont ensuite avoir beaucoup d'influence. C'est que le problème du mariage, c'est qu'on va être partagé, et que donc on ne pourra pas aimer en plénitude le Seigneur. Et du coup, finalement, le célibat est un choix préférable à celui du mariage. Alors, à partir de là, la tradition chrétienne, donc pratiquement dès le début, a valorisé l'état de célibat par rapport à celui du mariage. Mais cette tradition n'a pas seulement valorisé le célibat, elle a aussi valorisé la virginité. Je vous mets un autre passage du Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, donc c'est dans les grandes visions de l'auteur de l'Apocalypse. Voilà, c'est les 144 000, les élus qui se tiennent devant le trône de Dieu, voilà, et de l'agneau, qui est une figure du Christ. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 animaux et les anciens. Et nul ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000, les rachetés de la terre. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche ne s'est point trouvé de mensonge. Ils sont irréprochables. Voilà, on peut relever au passage le lien établi entre les femmes et la souillure. Mais en tout cas, ce qui a été déterminant pour la suite, c'est cette idée de la suite de l'agneau, hein, de la suite du Christ, en fait, partout où il va. C'est-à-dire que pour être au plus près de lui, il faut être comme lui, c'est-à-dire vierge. Ici, dans ce passage, il s'agit d'hommes. Mais très vite, quand le phénomène social des femmes choisissant de renoncer au mariage pour se consacrer à Dieu a commencé à se développer, c'est aux femmes que le discours valorisant la virginité a été généralement adressé. Saint Ambroise, qui est l'un des pères de l'Église latine, donc de ces penseurs et théologiens qui ont façonné la théologie occidentale, a écrit une série de traités sur ce thème. Un traité De Virginibus, sur les Vierges, en 376. Un traité De Virginitate, sur la virginité, en 377, adressé à sa sœur qui était religieuse. Et puis encore deux autres textes sur ce thème. Dans la pensée de saint Ambroise, il y a deux traits importants. Le premier, c'est que la Vierge consacrée est l'épouse du Christ. Et le deuxième, que son modèle doit être la Vierge Marie. Les religieuses doivent donc veiller par-dessus tout à la chasteté, en se tenant à distance du monde et des hommes, dans l'humilité et le service. Tout au long des siècles, qui vont de la fin de l'Antiquité au Moyen-Âge central, ces discours et considérations exercent une influence prégnante. Jusque dans la liturgie, voilà, je vous ai indiqué la formule de consécration des vierges, quand on leur impose le voile, voilà, la vêture. Donc dans le sacramentaire, c'est-à-dire le recueil de prières réservé aux évêques, à l'origine même au pape, hein, d'où le nom ici de sacramentaire gélasien pour le plus ancien conservé. Nous te prions, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour tes servantes que voici. Elles ont voulu te servir avec un esprit et un cœur pur pour que tu daignes les placer auprès de ces 144 000 petits-enfants qui sont restés vierges. Alors, au fur et à mesure de la tradition exégétique, les 144 000 ont été interprétés comme les innocents. Le massacre des innocents à Bethléem, quand Hérode voulait faire périr Jésus. Donc, ces 144 000 petits-enfants qui sont restés vierges et qui ne se sont pas souillés avec des femmes, et dans la bouche desquelles on n'a trouvé nul mensonge. De la même façon, fais que tes servantes restent sans tache jusqu'à la fin. Voilà. Donc, vraiment, cette focalisation sur la virginité, en lien avec la vie religieuse, et plus particulièrement la vie religieuse féminine, traverse les périodes. Au XIe siècle, si je prends le cas de l'évêque Yves de Chartres, qui est à la fois théologien et canoniste, et qui est l'une des grandes figures de l'Église de son temps, dans une période de crise, qui est aussi la période de la réforme grégorienne. Yves de Chartres, malgré toutes les occupations et sollicitations qui sont les siennes, s'intéresse aussi à ce qui se passe dans son diocèse, et notamment dans l'abbaye féminine de Saint-Avy, près de Châteaudun. Et il écrit au monial une lettre qui contient des remontrances assez sévères sur leur train de vie et le peu de cas qu'elles font de la clôture. Yves, par la grâce de Dieu, évêque de Chartres, aux vierges vouées à Dieu dans le monastère de Saint-Avy en Dunois, plaire à l'époux des vierges en gardant la virginité. Le nom de vierge est glorieux, mais plus glorieux sont les fruits de la virginité. Car si tout juste reçoit l'ordre de suivre les traces de son Dieu autant qu'il le pourra, on lit des vierges qu'elles suivent l'agneau partout où il ira. Donc vous voyez que ce verset de l'Apocalypse, on le retrouve partout. Et tandis que les divers ordres d'époux ou de continents ont toujours à déplorer d'avoir laissé corrompre tant soit peu leur chair, la virginité sans tache n'a qu'à se réjouir dans son auteur. Aussi, plus grande est son élévation, plus grave est sa chute. Voilà, donc il dit que la virginité, c'est l'apanage des citoyens du ciel, voilà. on ne risque plus de la perdre au ciel. Et donc, plus soigneusement quelqu'un en cette vie mortelle se modèlera sur elle, plus familièrement l'époux des Vierges le réjouira de ses visites et de sa charité. Car c'est le Christ, en effet, que vous avez fait vœu d'épouser. La bienheureuse Vierge Marie, dont la vie est spécialement proposée comme modèle aux Vierges de Christ, à Saint Ambroise, ne vivait pas en public et ne se plaisait pas dans les conversations des galants quand elle fut saluée par l'ange, quand l'Esprit-Saint la couvrit de son ombre et quand elle devint la mère du Sauveur. L'immortelle fiancée cherche en effet dans votre homme intérieur, alors homo en latin, c'est le genre l'humain, mais on ne peut pas le traduire tel quel en français, donc cherche en effet dans votre homme intérieur une beauté incorruptible et non la beauté corrompue de l'homme extérieur. Ainsi, lisez-vous dans un psaume au sujet de l'épouse du Christ. Alors, c'est le psaume 44, dont je ne vous ai pas mis le texte. Le psaume 44 est un épithalame, c'est-à-dire un chant nuptial. Voilà, et donc, dans le psautier, c'est le psaume qui célèbre les noces du roi. Donc, il est d'abord question de l'époux et puis de la fille de roi qu'on lui amène pour l'épouser. Donc, au sujet de l'épouse du Christ. Toute sa gloire de fille du roi est à l'intérieur. Ce qui convient donc en premier lieu à la Vierge du Christ, c'est un cœur humble, un visage pâle et flétri de maigreur, une peau desséchée par le cilice et non pas entretenue par des bains fréquents. C'est d'être réservée lorsqu'il s'agit de parler, obéissante lorsqu'il s'agit d'écouter. Si quelqu'une de vous était unie à un homme par les liens du mariage et qu'elle passa à un autre, ne serait-elle pas appelée adultère ? Retenez donc ces pensées, très chère sœur, attachez-vous à l'époux immortel, prodiguez-lui tout votre amour, veillez à l'avenir, à votre réputation que vous avez entachée en partie. Voilà, donc dans ce texte, on retrouve la préoccupation constante pour la préservation de l'intégrité, donc de la virginité des religieuses. La qualification du Christ comme époux, époux céleste. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde de près le vocabulaire, par exemple le terme de vœu, pour le vœu d'épouser, le titre de fiancé, sponsus en latin, la desponsatio, c'est vraiment l'engagement, presque au sens juridique, matrimonial, ou encore la comparaison avec l'adultère. On glisse d'un registre qui a été jusque-là plutôt symbolique, métaphorique, à un registre quasi juridique, qui mettrait sur le même plan donc le mariage entre un homme et une femme, mariage civil entre guillemets, et le mariage de la religieuse avec le Christ. Le thème amorcé par Ambroise de la Vierge consacrée comme épouse du Christ se combine aussi avec l'idée d'une hiérarchie entre les états de vie. Dans la quatrième, cinquième ligne de ce que vous avez sous les yeux, il est question des divers ordres d'époux ou de continents qui, eux, ont plus ou moins une chair qui a été corrompue par comparaison avec l'intégrité des vierges. Et donc, il y a une classification qui est établie entre ce qu'on appelle les états de vie, à partir notamment de la parabole dite du semeur dans les évangiles. Donc c'est une parabole racontée par Jésus, celle d'un semeur qui sort le matin pour semer, mais qui lance ses grains un petit peu partout. Donc il sème sur un chemin, il sème sur un sol pierreux, il sème dans les ronces, et puis enfin dans la bonne terre. Voilà. Et le grain qui est tombé sur le chemin, il est aussitôt mangé par les oiseaux. Le grain qui est tombé sur le sol pierreux, il commence à lever, mais dès que le soleil brille, il se dessèche parce qu'il ne peut pas avoir de racines. Le grain qui est semé dans les ronces, il s'enracine, il pousse, mais il finit par être étouffé par cette végétation adventice. Et puis il y a enfin le grain semé dans la bonne terre qui lui donne du fruit. Jésus dit 30, 60 ou 100 pour 1. Les disciples n'ont rien compris à cette parabole. Donc Jésus est obligé de la leur décrypter en expliquant donc que le chemin, le grain semé sur le chemin, ce sont les gens qui entendent la parole, la parole de Dieu, mais qu'ils ne la comprennent pas, le diable l'enlève aussitôt de leur cœur. Le sol pierreux, c'est les gens qui reçoivent dans un premier moment la parole avec enthousiasme, mais qui ne résistent pas aux épreuves et aux tribulations. Les ronces sont les gens qui reçoivent la parole, qui commencent à lui faire porter du fruit, mais ce fruit est étouffé par les richesses, les plaisirs ou les soucis du monde. Et puis la bonne terre sont les croyants qui reçoivent la parole, qui la gardent et qui lui font porter son fruit. Mais dans les évangiles, Jésus n'explique pas la distinction entre les 30, 60 ou 100 pour 1, les différents rendements. Et donc, dans la tradition exégétique, dès la période patristique, avec Augustin, il y a eu une interprétation en lien avec les différents états de vie. Les 30 pour 1, ce sont les gens mariés. Les 60 pour 1, les continents et les veuves. Et le 100 pour 1, donc le plus beau, le meilleur rendement, ce sont les vierges. Alors vous avez une illustration de cette tradition d'interprétation dans cet exemplaire du Speculum Virginum, qui est un traité du XIIe siècle, qu'on date des années 1150-1160, qui est un écrit adressé à des religieuses en forme de dialogue entre un maître spirituel, un moine, et puis une jeune religieuse. Donc c'est un traité didactique. Et en support de cet enseignement, il y a des images. Donc à travers les différents manuscrits du texte, on retrouve les mêmes schémas iconographiques. Et donc vous voyez cette espèce de plante qui pousse à partir du sol, donc qui est dans la bonne terre, qui a donné du fruit. À l'étage inférieur sont des couples, les gens mariés. Bon, puis là, la définition de l'image est trop mauvaise, mais il y a écrit « fructus triche et sisimus ». Le 30e. À l'étage supérieur, vous avez les veuves avec leur voile et puis la main contre la joue en signe d'affliction. Elle, c'est le fruit au 60e, 60 pour 1. Et puis, à l'étage supérieur, vous avez les vierges. Et dans les deux médaillons, les deux premiers médaillons, ce ne sont pas des couples. Il y a des femmes d'un côté, des hommes de l'autre, tenant des livres de prière. Voilà, donc renvoyant à l'état de vie des religieux. Et ce sont les plus proches du Christ qui apparaît dans le médaillon supérieur. Voilà, donc cette hiérarchie établie entre les différents états de vie, des gens mariés jusqu'aux vierges, et renforcé par l'axe vertical et la proximité avec le Christ tout en haut. Alors, je voudrais vous parler maintenant des changements ou déplacements significatifs qu'on peut observer par rapport à cette tradition au XIIe siècle. Voilà, il est impossible de tout embrasser. Donc pour le XIIe siècle, je vous avais parlé tout à l'heure des écrits des chartreux victorins et cisterciens, mais je vais me concentrer sur les auteurs spirituels que je connais le mieux, c'est-à-dire les cisterciens. C'est à travers leurs écrits que je voudrais pointer trois évolutions importantes. Un premier changement, il est relatif justement à ce qu'on appelle dans le jargon chrétien l'état de vie. Célibataire, veuf ou marié, on ne parlait pas de divorcé au Moyen-Âge, ou encore les états de vie comme laïque, clair ou religieux. On a vu déjà dans certaines citations que les vierges suivent l'agneau partout où il va. La plus haute expérience spirituelle, celle qu'on peut qualifier de mystique, serait donc réservée aux vierges épouses du Christ. Ce titre, épouse du Christ, était réservé aux femmes consacrées à Dieu. Mais parmi les moniales, il n'y avait pas que des vierges. Il y avait aussi des femmes entrées plus tard dans la vie religieuse, des veuves qui se retiraient au monastère après un veuvage ou une séparation. Est-ce que à ces femmes qui avaient été mariées, qui avaient eu une activité sexuelle, on pouvait aussi donner le titre d'épouse du Christ ? La question a suscité un certain embarras, mais après tout, puisqu'une femme pouvait se marier deux fois, avec deux maris bien concrets, si elle était veuve du premier, on a admis qu'elle pouvait aussi, après un mariage humain, embrasser un mariage divin et donc devenir une épouse du Christ, sans la fraîcheur, évidemment, des vierges. Mais le cistercien Abdon de Persaigne a franchi encore un pas supplémentaire à la fin du XIIe siècle. Devenu en 1188 abbé du monastère cistercien de Persaigne dans la Sarthe, il joue comme d'autres religieux un rôle de directeur spirituel auprès de femmes de la haute aristocratie, alors, notamment par une correspondance par des lettres. À ces femmes nobles, leur famille laissait généralement peu de choix, hein, que ce soit le choix entre la vie religieuse ou le mariage, le choix de leur mari, ou le choix de se remarier ou non après un veuvage. Adam est bien conscient de ces réalités dans les lettres qu'il a adressées à plusieurs femmes de haut rang. Répondre à leurs demandes, ça n'était pas les inciter à quitter leur état de vie, elles sont mariées, mais à leur donner accès, malgré tout, donc malgré le mariage, à une vie spirituelle intense. La lettre qu'Adam a adressée à la comtesse du Perche a gagné en notoriété grâce à Georges Duby, hein, qu'il a commenté dans son ouvrage intitulé « Dame du XIIe siècle ». Voilà, je vous mets le texte, hein. Donc c'est « Lettre à la comtesse ». « Il t'a créé âme et corps, et l'une et l'autre sont à lui de plein droit, c'est évident. Pourtant, il a provisoirement cédé à ton mari, au nom de la loi du mariage, son droit sur ton corps. » Mais l'âme, il la revendique comme sienne. Il ne permet pas que de droit, elle passe à un autre. Ton mari charnel est l'époux de ta chair. Dieu est ton époux de l'âme. La jalousie, cependant, ne trouble aucun d'eux, dans la mesure où tu es chaste et fidèle à l'un comme à l'autre. À ton époux céleste, tu dois la chasteté de ton âme, comme à ton mari charnel, tu dois offrir une chair chaste. Alors, je précise au passage que la chasteté n'est pas la continence ou la virginité. C'est respecter donc les engagements pris dans l'état de vie où on est. Le premier a doté la chasteté de ton âme des splendeurs angéliques, et cette dot, tu l'as reçue dans le mystère de la foi et la certitude de l'espérance. Oh, si tu aimais cette dot, si tu ne repoussais pas cet époux, comme si tu avais bien peu donné, c'est l'époux divin. Tu es de noble naissance et selon la chair de sang royal, mais incomparablement plus noble par cette dot dont ton noble époux t'a donné l'investiture. Tourne-toi vers lui, aime-le, soupire après lui, car il est l'unique douceur, la suprême beauté, la joie singulière. Sous prétexte du droit du premier, ne lui dénie pas son droit à lui. Et là, Duby, évidemment, va avoir des commentaires assez ironiques. Quand ton époux charnel se fond en toi, trouve ton délice à te fondre spirituellement en ton époux céleste. Il est juste, certes, ou plutôt il est la justice même. C'est lui qui a institué la loi du mariage, et quand tu rends à chacun ce que tu sais être son dû, toi non plus, tu ne contreviens pas à la justice céleste. Ainsi donc, dans ta chair, tu dois laisser son droit à ton mari, de façon à ne pas dépouiller Dieu du sien, car il ne tournerait pas à ton profit que tu fasses illégalement passer le droit de l'un ou de l'autre à un usage étranger. Alors, c'est un texte un petit peu complexe, et on a pu souligner, Duby donc notamment, la posture un peu acrobatique, si l'on peut dire, proposée à la comtesse. Dans les étreintes conjugales, offrir son corps à son mari, comme de droit, mais garder son esprit et son désir tendus vers son épouse céleste. Cette posture repose à la fois sur une dissociation entre l'époux charnel et l'époux spirituel, hein, qui produit dans le texte un peu un effet de bigamie, voilà, même si, selon Adam, il faut préserver les droits de l'un et de l'autre, il ne doit pas y avoir de jalousie. Et ça repose aussi sur une dichotomie entre le corps et l'âme qui peut peut-être paraître un peu schizophrénique. Il va sans dire aussi qu'il y a une hiérarchie entre les deux époux. Hein, l'époux céleste est sans comparaison par sa noblesse et sa générosité, hein, avec l'époux terrestre. Il est l'unique douceur, la suprême beauté, la joie singulière. Alors, il y a évidemment des maladresses dans le discours qui se cherche ici, mais en même temps, c'est un jalon important, puisque ça marque une évolution qui ouvre aux femmes mariées la perspective d'accéder à une expérience spirituelle de haute intensité, se fondre spirituellement en l'époux céleste, voilà, qu'on pourrait peut-être qualifier donc d'expérience mystique. On va trouver la trace d'une autre évolution importante chez un cistercien anglais, Elred de Rievaux, qui est parfois désigné comme le Saint Bernard anglais par l'importance de ses écrits et de sa doctrine spirituelle. Elred a écrit un petit traité à l'intention de sa sœur qui était une recluse. Alors, les recluses, ce sont les femmes qui se font enfermer hein, définitivement à vie dans une petite cellule, souvent attenante à une église, parfois au mur d'un cimetière. Voilà, et donc c'est un type de vie religieuse, c'est un peu le pendant féminin, si vous voulez, de l'érémitisme pour les hommes, mais il y a aussi des hommes reclus. Et donc Elred écrit pour sa sœur, qui est recluse, et pour les femmes plus généralement qui auraient adopté ce type de vie. C'est à la fois une règle de vie, à la manière d'autres règles religieuses, et un directoire proposant un itinéraire spirituel et des méditations. On y trouve la dimension affective qui caractérise souvent les écrits des auteurs cisterciens de l'époque. Tout d'abord, considère soigneusement pourquoi tu dois préférer la solitude à la société des hommes. La Vierge, dit l'apôtre, pense à ce qui est de Dieu et comment elle plaira à Dieu pour être sainte de corps et d'esprit. C'est la lettre aux Corinthiens, le chapitre que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un sacrifice volontaire, une oblation spontanée. Aucune loi, aucune nécessité, aucun précepte n'y oblige. Aussi le Seigneur dit-il dans l'Évangile, que celui qui peut comprendre, comprenne. De qui s'agit-il donc ? Évidemment de celui chez qui le Seigneur a éveillé ce désir et à qui il a donné le moyen de le réaliser. Confie donc avant tout aux Vierges, avec toute la ferveur de ton cœur, ta bonne résolution à celui qui te l'a inspiré. Bon, je saute quelques lignes. À propos de la virginité, le Christ lui-même en est avide. Séduit par elle, il est tout disposé à aimer et à faire des largesses. Quelle largesse ! J'ose le dire. Il se donne lui-même et il donne tout ce qu'il a. C'est ainsi que le parfum de ta virginité embaume jusqu'aux cieux. Grâce à lui, le roi s'éprend de ta beauté, c'est le psaume 44, lui, le Seigneur ton Dieu. Voilà l'ami que tu t'es fait, l'époux que tu t'es choisi. Alors, au départ, ça paraît très classique, on retrouve tout le répertoire de citations scripturaires que je vous ai déjà présentées. Mais il y a aussi une tonalité nouvelle, hein, notamment dans les dernières lignes de ce premier paragraphe. Le Christ qui se donne lui-même et donne tout ce qu'il a, c'est la figure de l'amant. Et le registre qui se déploie, c'est celui de la réciprocité amoureuse, hein, avec le roi qui s'éprend de la beauté de son épouse. Or, dans les discours adressés à des religieuses aux époques antérieures, on leur disait ce qu'elles devaient faire pour plaire à leur époux céleste, mais il n'était jamais question des sentiments de ce dernier à leur égard. Donc dans cette réciprocité. Et donc ça n'était pas formulé non plus sur un mode personnel. Des propos comme ceux d'Elred reflètent le contexte spécifique du XIIe siècle, avec une conscience nouvelle de l'individu, hein, de la personne, et le déploiement du discours amoureux, qui est d'abord porté par la poésie lyrique, puis par les romans, hein, avec tout ce qu'on appelle l'amour courtois ou la fine amour. Mais ça n'est pas tout. Je reprends le texte. Sur ton autel, il suffira que tu aies une image du Sauveur pendant à la croix. Elle te rendra présente sa passion, cette passion qu'il te faut imiter. De ses bras grands ouverts, il t'invite à ses étreintes qui feront ton bonheur, et de sa poitrine découverte, il te donnera le lait de sa douceur qui sera ta grande consolation. Les images doivent donc donner occasion à des élans d'amour et non pas devenir un étalage de vanité. Elles doivent toutes te ramener à l'unité, parce qu'une seule chose est nécessaire. Cette unité ne se trouve qu'en l'unique, auprès de l'unique, avec l'unique, auprès duquel il n'y a plus ni changement ni ombre de vicissitude. Celui qui adhère à lui ne fait plus qu'un avec lui, ne fait plus avec lui qu'un seul esprit. Il est transporté en cet unique, toujours identique à lui-même, dont les années ne passent pas. Cette adhésion, c'est la charité, c'est la frange et le fini de l'âme, car cette robe nuptiale, tissée de toutes sortes de vertus, doit encore être brodée tout autour avec les franges d'or de la scintillante charité. Voilà ta part très chère. Morte au monde et ensevelie, tu dois être sourde et muette pour les choses du monde. Tu n'as pas à te répandre, mais à t'approfondir. Tu n'as pas à t'épuiser, mais à être comblée. Voilà, c'est un très beau texte. Hein. C'est aussi ce qui fait de d'Elred un grand auteur. Mais on peut retenir ici un certain nombre d'éléments. Ce thème de l'unité, hein, de l'union avec l'unique, et cette expression, hein, unité d'esprit, unitas spiritus, c'est quelque chose de très fort et qui, chez d'autres auteurs cisterciens, en particulier Guillaume de Saint-Thierry, est vraiment la visée ultime de l'expérience spirituelle et de ce qu'il n'appelle pas encore directement, mais qu'on peut sans doute appeler aussi expérience mystique. On peut relever aussi que cette union, cette unité, elle appelle aussitôt le motif nuptial, la robe nuptiale, voilà, donc le motif du mariage spirituel. Et puis, en haut de ce paragraphe, dans les premières lignes, alors, il y a les étreintes du Christ, mais vous pouvez aussi noter « De sa poitrine découverte, il te donnera le lait de sa douceur ». Donc on voit apparaître ici une image féminine, une image maternelle du Christ. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez présent, alors chez les cisterciens notamment, mais pas que chez eux, à cette époque. Et donc les deux figures christiques se superposent, la figure masculine, celle de l'amant, et la figure maternelle, nourricière. Voilà. Alors, je n'ai pas le temps de vous donner tous les détails, mais dans la dernière partie de ce traité, Elred a inventé un type totalement nouveau de méditation, hein, comme exercice spirituel proposé à sa sœur, qui consiste non seulement à se remémorer des épisodes évangéliques, mais à se projeter mentalement la scène, à se la représenter, et à se projeter dans la scène, hein, à s'y rendre présent jusqu'à y tenir un rôle. Donc là, il s'agit de la scène qui est aussi la scène C-E-N-E, hein, le dernier repas du Christ avec ses disciples, donc le lavement des pieds. Je passe tout de suite au second paragraphe. Pourquoi il s'adresse à sa sœur, hein, qui est donc censée se projeter dans la scène. Pourquoi te hâter de sortir? Reste encore un peu. Ne remarques-tu pas celui-là qui s'est penché vers la poitrine du maître et incliné la tête sur son sein? Qui est-ce donc? Quel bonheur pour lui en tout cas. « Oh, je vois, Jean est son nom. Oh Jean, dis-nous quelle douceur, quelle grâce pénétrante et quelle lumière et quelle ardeur n'as-tu pas puisé à cette source. Dans cette poitrine, tu as les trésors de la sagesse et de la science, la fontaine de miséricorde, le séjour de la tendresse, le rayon du miel de l'éternelle suavité. Mais d'où te viennent semblables faveurs? Es-tu plus grand que Pierre, plus saint qu'André? Plus digne d'être aimé que tous les autres apôtres? C'est le privilège particulier de la virginité. Tu étais vierge et le Seigneur t'a choisi et t'a aimé plus que les autres. Aussi, sois dans l'exultation, vierge, approche de plus près, et sans perdre de temps, réclame ta part à ses douceurs. Mais si tu ne te sens pas capable d'aller aux sublimités, laisse à Jean la poitrine où il s'enivre du vin d'allégresse, de la connaissance de la divinité, et cours vers les mamelles de l'humanité, bois le lait qui te nourrira. » Donc ici encore un texte d'une extrême densité. Alors c'est dans le chapitre 13 de l'Évangile de Jean, hein, le dernier repas pris par le Christ avec ses apôtres, qu'on a cette indication que Jean était couché sur la poitrine du Christ. L'Évangile ne dit pas qu'il dormait. Mais assez vite, c'est l'idée qui a été véhiculée par la tradition exégétique. Et au Moyen-Âge central, donc la période qui nous intéresse, il y a l'idée que ce sommeil de Jean sur la poitrine du Christ, dans leurs derniers instants partagés, est un sommeil mystique, qui vaut à Jean de se voir communiquer un certain nombre de révélations, et notamment concernant la divinité du Christ. Donc Jean est instruit par ce contact cœur à cœur sur la poitrine du Christ, de la plénitude de la nature du Christ, pas seulement sa nature humaine, mais sa nature divine. Et on a les images du rayon du miel, du vin, du lait. Alors c'est là, derrière ça, il y a le texte du Cantique des Cantiques. Dans l'Ancien Testament, donc ce poème, ce dialogue amoureux entre un amant et son amante, qui utilise beaucoup le vocabulaire de ce qui se mange et de ce qui se goûte, de ce qui se boit. Et puis, vous retrouvez aussi les mamelles du Christ, son sein, sa poitrine, ses mamelles. Voilà, celui qui est capable d'accéder au vin, c'est-à-dire à la connaissance de la divinité, c'est celui qui est le plus avancé dans l'expérience spirituelle. La personne, peut-être la sœur d'Elred, qui doit se contenter du lait, c'est la personne qui, pour l'instant, en est encore à l'amour de l'humanité du Christ. Donc, aime dans le Christ son humanité. Voilà, alors après, ça sera traduit par d'autres comme une distinction entre commençant et parfait dans la vie spirituelle. Mais j'enchaîne sur le troisième témoin cistercien que je voulais évoquer, qui est Saint Bernard, avec son commentaire sur le Cantique des Cantiques. Voilà, donc ce livre de l'Ancien Testament, je vous le disais, poème amoureux, il a pratiquement, dès les origines, fait l'objet d'une interprétation allégorique. Dans la tradition juive, il est lu comme le poème de l'amour entre Dieu et son peuple. Dans la tradition chrétienne, depuis l'époque patristique, essentiellement comme l'amour entre Dieu et l'Église. Et puis, à partir du XIIe siècle, de plus en plus, dans ce qu'on appelle le sens moral, comme l'image de l'amour entre Dieu et le croyant ou la croyante. Or, avec Saint Bernard, qui commente le Cantique des Cantiques pour ses moines, donc pour une assemblée masculine, on voit bien un déplacement important. Dans l'anthropologie chrétienne, il y a, alors, tout être humain, un principe présenté comme féminin qui est l'âme. Et donc, comme les hommes ont une âme, ils ont en eux ce principe féminin. Et donc, par son âme, en son âme, un moine peut se vivre comme la bien-aimée du Christ, sa fiancée, son épouse. Et donc, la mystique nuptiale, c'est-à-dire une relation amoureuse à Dieu, exprimée et informée par le motif du mariage, n'est pas l'apanage du genre féminin. Voilà, alors, premier extrait des sermons de Bernard sur le Cantique. Ce sentiment de l'amour est le plus élevé des dons naturels, surtout s'il remonte à sa source qui est Dieu. Et pour exprimer la douce affection réciproque du Verbe et de l'âme, on n'a pas trouvé de nom plus doux que ceux d'époux et d'épouse, car tout leur est commun, ils n'ont rien en propre, rien qui ne soit partagé. Ils ont même héritage, même table, même maison, même lit, et ils sont une même chair. Donc il insiste sur la communauté de vie et les sentiments. Si donc le verbe aimer convient de façon spéciale et particulière aux époux, ce n'est pas à tort qu'on désigne du nom d'épouse l'âme qui aime. Elle ne fait pas de préambule, n'essaye pas de capter la bienveillance, mais soudain, du trop-plein de son cœur, sans embâge et le front haut, elle s'écrie « Qu'il me baise d'un baiser de sa bouche ». C'est le premier verset, le premier chapitre du Cantique des Cantiques. Son amour est ardent car elle s'enivre de cet amour. Alors l'ivresse, c'est souvent lié à l'expérience mystique. Elle s'enivre de cet amour à tel point qu'elle ne pense plus à la majesté de l'époux. Quoi donc ? À celui qui de son regard fait trembler la terre, elle demande un baiser. Est-elle ivre ? Oui, elle l'est. Oh, quelle est grande la force de l'amour ! Quelle confiance inspirée par l'esprit de liberté. Quoi de plus évident que cette parole ? L'amour parfait bannit la crainte. Alors, il y a plus de 80 sermons de Bernard sur le Cantique des Cantiques. Donc, vous voyez que dans l'extrait d'à côté, je suis passée au sermon 83, pratiquement à la fin du recueil. Je ne prends même pas tout l'extrait. Ce qui pour Bernard justifie hein, cette possibilité de l'âme de s'élever pratiquement au niveau de Dieu, hein, comme l'épouse avec l'époux, c'est que l'âme a été créée à la ressemblance et à l'image de Dieu. Alors, la ressemblance est, l'image est intangible. La ressemblance, elle peut être altérée par le péché, mais retrouvée justement par la relation d'amour avec Dieu. Donc je prends un peu plus bas que le milieu du texte. Or, le retour de l'âme, c'est sa conversion au Verbe pour qu'il la reforme et la rende conforme à lui-même. En quoi ? En l'amour. Une telle conformité marie l'âme au Verbe. Déjà semblable à lui par nature, elle se rend aussi semblable à lui par la volonté, en l'aimant comme il l'aime. Si elle aime parfaitement, son mariage est consommé. Quoi de plus joyeux que cette conformité ? Quoi de plus désirable que cet amour ? Voilà le contrat d'un mariage vraiment spirituel et saint. C'est trop peu dire un contrat, c'est une étreinte. Hein, donc on retrouve cette image de l'étreinte déjà présente chez Elred. Alors, le problème de l'étreinte, c'est que ça peut avoir une connotation trop concrète. Et donc, c'est le dernier passage de lui que je voulais vous citer. Il y a une mise en garde hein, de Bernard. « Prends garde à toi. Ne va pas croire que dans cette union du Verbe et de l'âme, je songe à quelque chose qui appartienne au corps ou à l'imagination. Nous parlons de ce que l'apôtre dit. Celui qui s'attache à Dieu est avec lui un seul esprit. » Le ravissement en Dieu d'une intelligence purifiée, alors je vous ai mis le latin, l'excessum purementis in Deum, voilà, l'excessus mentis hein, ou le raptus sont vraiment les termes qui qualifient l'expérience mystique, hein, l'extase. Donc le ravissement en Dieu d'une intelligence purifiée ou la bienveillante descente de Dieu dans une âme, nous les exprimons comme nous pouvons avec nos mots à nous. Expliquant au spirituel ce qui est spirituel. Que cette rencontre s'accomplisse donc en esprit, parce que Dieu est esprit. Il s'éprend de la beauté de cette âme qu'il a vue marcher sous l'impulsion de l'esprit et qui ne se soucie point de la chair et de ses désirs. Voilà, donc le souci de Bernard, c'est de bien maintenir une distance entre expérience charnelle et expérience spirituelle. Alors, je vois que le temps a passé, combien de... Je peux encore prendre 5 minutes ? D'accord. Donc je vais aller assez vite pour ma dernière partie. Je vous ai dit, je vous avais déjà prévenu que ce serait plus un aperçu sur ce que devient le thème du motif du mariage spirituel au mariage mystique dans les derniers siècles du Moyen-Âge. Et c'est le dernier texte que j'ai retenu, celui d'une béguine. Donc j'ai entendu dans la discussion tout à l'heure hein, de la précédente intervention qu'on avait parlé des béguines, Adewijch d'Anvers, donc qui écrit vers 1240, voilà, dans son recueil de visions. Un jour de Pentecôte, j'eus une révélation à l'aurore en assistant aux matines que l'on chantait à l'église. Mon cœur, mes artères et mes membres tremblaient et frémissaient de désir. Et comme souvent, je sentais en moi-même, dans une tempête terrible, que si je n'étais tout entière à mon bien-aimé, s'il ne m'emplissait enfin de lui-même, cette agonie me rendrait folle et cette fureur me ferait mourir. Je désirais jouir pleinement de mon bien-aimé, le connaître et le savourer sans réserve, avoir fruition parfaite de son humanité avec la mienne et que la mienne fût en la sienne établie. Et je désirais donc pour l'intérieur qu'il me satisfît de sa divinité dans l'esprit unitif et me fût tout ce qu'il est en lui-même, sans nulle diminution. Il n'est plus haute satisfaction qui se puisse donner en effet que de croître et devenir Dieu avec Dieu-même. Mais il faut pour cela souffrance et peine endurée, exil et déplaisir sans cesse renouvelés, qu'on laisse venir et passer pourtant sans des plaisirs intimes, ni savourant que le doux amour, les caresses et les baisers. Ainsi désirais-je que Dieu fût à moi pour être à lui et le satisfaire à mon tour. Voilà, donc c'est vraiment le langage des amants, un langage assez érotique, avec évidemment les dangers hein, que ça peut, des dangers d'interprétation auxquels ça peut donner prise. Et en même temps, il y a ce jeu sur le plan de l'humanité et celui de la divinité, hein, de la connaissance extérieure et de la connaissance intérieure. Alors, c'est dans le deuxième paragraphe que Adovitch décrit sa vision. Alors, lui-même s'avança, descendant de l'autel, sous la forme d'un enfant. Et celui-ci avait l'aspect qu'il eut en ses trois premières années. Il se dirigea vers moi et tira du ciboire son corps, donc c'est l'Eucharistie, hein, et tira du ciboire son corps de la main droite, tandis que sa main gauche, il prenait un calice. De l'autel, semblait-il, mais sans que je visse d'où il venait. Il m'apparut alors dans le vêtement et la figure qu'il eut au jour où pour la première fois il nous donna son corps, donc à la scène, sous la forme virile, doux et beau dans la riche splendeur de son visage, il vint à moi si humblement, comme un amant qui se soumet tout à l'autre. Et il me fit don de lui-même sous les espèces et figures de sacrement, comme d'usage. Enfin, s'avançant vers moi, il me prit tout en ses bras et me serra contre lui. Et tous mes membres sentirent les siens, dans la plénitude que j'avais désirée de cœur, selon ma propre humanité. Ainsi, j'eus de l'extérieur satisfaction plénière et parfaite. Et pour un peu de temps, j'eus aussi la force de le supporter. Mais bien vite, je perdis la vision de l'homme beau sous la forme extérieure, et je la vis s'évanouir sans que rien demeurât. Il s'effaça et se fondit en l'unité, de telle sorte que je cessais de le connaître et de l'appréhender hors de moi-même, comme aussi de le distinguer en moi-même. Il me parut alors que nous étions unis sans différence. L'union extérieure dont j'ai parlé tout à l'heure était évidence, saveur et sentiment, comme lorsqu'on reçoit le sacrement du dehors, qu'on le goûte par la vision et le sens, en sorte que la bien-aimée reçoit le bien-aimé dans une plénitude parfaite de la vue et de l'ouïe, et qu'ils se perdent l'un dans l'autre. Ensuite, je demeurai abîmé en mon bien-aimé et me perdis en lui sans réserve, en sorte que de moi-même rien ne demeura. Alors, je fus changé et ravi en esprit, et j'eus une révélation de plusieurs heures. Alors, ce texte, je vous l'ai choisi, il est quand même assez singulier. Hein, on en a peu d'équivalents dans les écrits qu'on conservait de cette époque. Alors, on retrouve la tonalité assez érotique, surtout avec le basculement de la vision hein, du Christ sous la forme d'un petit enfant à celui d'un adulte viril. Mais on peut retenir non seulement le passage d'une vision d'un contexte extérieur par les sens à une vision intérieure, mais un au-delà même de la vision intérieure, hein, quand celle-ci même disparaît. Voilà. Et ça se confond aussi avec la perte de la conscience de soi, on pourrait dire la perte du moi. Alors, ce genre d'écrit, je ne sais pas par quel miracle il nous est parvenu, puisque d'autres, par exemple « Le miroir des simples âmes anéanties hein, » de Marguerite Porrette, a valu à son auteur d'être brûlé, et au texte d'être difficilement transmis, mais c'est vraiment le type de discours qui pouvait paraître extrêmement dangereux, non seulement à cause du versant érotique, mais aussi l'idée de faire un avec Dieu, engommant la distance entre la créature et le créateur. Voilà. Et donc je voulais vous parler, pour terminer, des deux Saintes Catherine, hein, Sainte Catherine d'Alexandrie et Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre hein, de l'époque des persécutions romaines, c'est l'une des saintes les plus populaires au Moyen-Âge. Et sa légende, donc le texte qu'il fallait lire pour le jour de sa fête, a été réécrite par Jacques de Voragine dans la Légende dorée, hein, qui a connu un énorme succès. C'est un des best-sellers de la fin du Moyen-Âge. Et donc, menacée par l'empereur Maxence, qui veut qu'elle sacrifie aux idoles, puis qui lui propose de l'épouser, Catherine répond en disant qu'elle refuse, puisqu'elle est l'épouse du Christ. Voilà. Et c'est répété hein, dans un deuxième entretien avec l'empereur. Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est la mise en avant hein, de ce titre d'épouse du Christ, ou le titre pour le Christ d'époux, et puis le registre affectif. Vous voyez à la fin du premier extrait, il est mon amour, il est ma douceur et mon affection. Mais il y a chez Voragine rien justement qui puisse prêter à équivoque hein, du côté sensuel ou charnel. Voilà. Et donc, dans la tradition iconographique, donc je vais terminer avec des images, on voit que est illustrée une scène du mariage de Sainte Catherine d'Alexandrie. Elle était fille de roi, selon sa légende, donc on la reconnaît notamment avec sa couronne. Donc, scène de mariage avec le Christ qui lui passe l'anneau au doigt. C'est assez étonnant parce qu'on ne connaît pas de texte qui ferait le lien entre la légende dorée du dominicain Jacques de Voragine et ses premières images qui apparaissent au XIVe siècle. Est-ce que ce sont les images qui ont été innovatrices? On ne peut pas l'affirmer. Mais en tout cas, vous voyez que celui qui passe l'anneau au doigt de Catherine, c'est un enfant. Donc si on se référait à la vision d'Adovitch, c'est le premier temps de sa vision. Voilà, avec un petit garçon de 3 ans, il n'y a pas d'équivoque de schéma érotique. Voilà. Et donc, dans d'autres images, d'autres tableaux des 14e et 15e siècles, au milieu et à droite, vous retrouvez la représentation du Christ enfant. Le panneau de gauche fait un peu exception, mais vous voyez que Catherine tient une palme dans la main, donc elle est déjà martyre. Donc c'est vraiment la confirmation de ses épousailles au ciel. Et là, il n'y a plus d'ambiguïté non plus. Et l'autre saint, alors voilà, ça c'est le plus connu, donc de même ligne. Toujours le bébé, là, cette fois, qui lui passe l'anneau au doigt. L'autre Catherine, donc Sainte Catherine de Sienne, donc morte en 1380, reconnue donc comme visionnaire et mystique de son vivant. Il y a aussi une scène de mariage mystique. Vous voyez le Christ qui lui passe l'anneau au doigt. Mais ça, c'est quelque chose que Catherine elle-même a raconté dans l'une de ses expériences, de ses visions. Elle voit le Christ lui passer l'anneau au doigt et elle raconte que à partir de là, elle a toujours senti cet anneau à son doigt, mais il reste invisible pour les autres. Et puis, dans le panneau plus tardif, époque moderne, 16e siècle, que vous voyez à droite, ce qu'elle tient avec caché par sa main gauche, c'est un cœur. On aperçoit le rouge du sang. Et ça renvoie à un autre épisode qui a été raconté par son confesseur dominicain, Raymond de Capoue, une scène de l'échange des cœurs. C'est-à-dire que dans l'une de ses visions, Catherine voit le Christ lui enlever son cœur à elle, et 2 jours plus tard, il lui réapparaît et il lui met dans la poitrine son cœur à lui. Voilà. Il y a pas, ce motif-là, on ne le retrouve pas que pour Catherine de Sienne, mais c'est avec elle qu'il est le plus connu. Voilà, donc là, le mariage mystique aboutit à un motif encore nouveau. Pour conclure, je ferai deux remarques. À travers un certain nombre des textes que je vous ai montrés, vous avez vu que l'amour divin, il est focalisé sur la personne du Christ. Et donc, opposer amour humain et amour divin, si l'amour humain c'est celui d'un mari terrestre, l'amour divin celui d'un époux céleste, bon, ça a été repris par un certain nombre de textes, mais on peut dire que dans le Christ lui-même, il y a les deux amours, puisque selon la doctrine chrétienne, il y a à la fois homme et Dieu. En aimant le Christ, on aime un homme et on aime son Dieu. Voilà, et c'est pour ça que le jeu entre amour de l'humanité, amour de la divinité, dans l'amour du Christ, on le retrouvait chez Elred, on l'a retrouvé aussi chez Adovitch d'Anvers, et évidemment chez beaucoup d'autres. Voilà. Et ma deuxième remarque, c'est qu'avec le culte de ces saintes, à la fin du Moyen-Âge, on est revenu finalement à quelque chose d'assez classique, qu'on avait déjà chez Saint Ambroise, où l'épouse du Christ par excellence, c'est une vierge, c'est une moniale, une religieuse. Donc ça n'a pas immédiatement, on n'a pas immédiatement développé les pistes davantage amorcées par un Adam de Persègne ou d'autres. Je vous remercie de votre attention.